France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Perquisition ce matin au siège du RN. L'enquête sur le financement des dernières campagnes du Rassemblement National s'accélère. Des sociétés qui ont prêté au parti sont également visées. Le RN qui dénonce un acharnement. Explication dans un instant. Vers un procès 43 ans après l'attentat de la rue des Rosiers à Paris. 6 personnes devraient être renvoyées aux assises. Le feu à Marseille en très nette régression ce matin, mais toujours actif. Nous vous raconterons la nuit infernale des habitants des quartiers nord et nous verrons pourquoi la promesse de 16 nouveaux Canadair avant 2027 faite par Emmanuel Macron ne sera pas tenue. Sans oublier le chrono sur le Tour de France cet après-midi à Caen et les 100 ans du photomaton qui a encore de beaux jours devant lui.
France Inter.
Des policiers et des juges ce matin au siège du Rassemblement National à Paris. Pour une perquisition, la justice s'intéresse au financement des dernières campagnes électorales du parti de Marine Le Pen. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour Jérôme.
Vous allez nous dire dans un instant sur quoi porte précisément cette enquête. D'abord, allons sur place retrouver Lise Roseveille. Bonjour Lise.
Bonjour.
Y a-t-il toujours des allées-venues devant vous ?
Eh bien non, pas d'allée et venue de policiers. La perquisition est toujours en cours. Nous avons vu il y a environ 2 heures, 3 policiers entrer. Des policiers armés et gilets pare-balles sur le dos. Mais depuis, on ne les a pas revus sortir. Depuis, la porte grise blindée du siège du RN reste close. Un homme filtre à l'entrée et aux derniers étages, les rideaux sont fermés. Après plusieurs heures de silence au sein du parti, le député Laurent Jacobelli, porte-parole, est sorti à l'instant sur le pas de la porte. Il dénonce un acharnement judiciaire.
Plus qu'à une perquisition, c'est un véritable scandale démocratique que nous assistons, inédit. Le premier parti politique de France n'a plus aucun secret pour le gouvernement. Nos listes de candidats, nos programmes, la manière dont nous souhaitons faire campagne, nos stratégies sont connues du gouvernement.
Selon le RN, des milliers de documents comptables ont été saisis. Le président du parti, Jordan Bardella, qui n'est pas présent sur place, parle sur X d'une nouvelle opération d'harcèlement contre le RN.
Lise Roseveille, en direct du siège du Rassemblement National avec Benjamin Thuau. Delphine Evenoux, vous êtes avec nous, service police-justice de France Inter. Dans quel cadre s'inscrit cette enquête ?
L'information judiciaire a été ouverte il y a un an après un signalement en 2023 de la commission des comptes de campagne. Les enquêteurs s'intéressent donc, vous le disiez, à la présidentielle et aux législatives de 2022, mais aussi aux européennes de 2024. Sur quoi portent les soupçons ? Sur des surfacturations de prestations de campagne ou des facturations de prestations fictives. Ce qui explique sans doute que ce matin, les sièges sociaux d'entreprise et le domicile de dirigeants de ces sociétés aient aussi été perquisitionnés. Soupçons également sur des dons supérieurs à 7500 euros, le plafond légal, et sur des prêts illégaux de particuliers. Il y a quelques jours, lors d'une conférence de presse à l'occasion de son rapport annuel, la commission des comptes de campagne relevait pour les européennes de 2024 que le RN s'est appuyé sur quelques 225 particuliers, près de 4,5 millions d'euros avancés parce que les banques nous ferment la porte, explique le parti. Les prêts doivent être remboursés, sinon c'est du don déguisé, rappelle la commission. Dans cette enquête, pour l'instant, précise le parquet de Paris, personne n'est mis en examen.
Delphine Evenoux, là c'est une affaire vieille de 43 ans. L'attentat de la rue des Rosiers, 9 août 1982, une grenade lancée dans un restaurant du quartier juif du Marais à Paris et un commando qui ouvre le feu, bilan 6 morts. L'attentat avait été attribué à l'époque à Abu Nidal, un groupe palestinien dissident de l'Organisation de Libération de la Palestine de Yasser Arafat, mais sans que l'enquête n'aboutisse. Eh bien, la justice française s'apprête à juger 6 suspects. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
C'est vous qui nous avez révélé ce matin cette information. Le parquet national antiterroriste vient de rendre son réquisitoire définitif.
Oui, 43 ans après cette grenade jetée dans le restaurant Joel Goldenberg, puis un commando qui tire, tue, blesse et sème la terreur. Commando terroriste constitué de 3 à 5 hommes selon les récits des témoins à l'époque et dont le parquet national antiterroriste pense avoir identifié plusieurs tireurs. Certains à l'étranger sont sous le coup de mandat d'arrêt, mais Walid Abou Zayed, 66 ans, réfugié en Norvège, a lui été remis à la France il y a plus de 4 ans. Il nie toute participation à l'attentat, mais le parquet antiterroriste souligne qu'il est désigné de manière constante, concordante par plusieurs témoins. Un peu court, dénoncent en substance ses avocats qui voient dans ce réquisitoire un bricolage collages dangereux faits de portraits robots vieux de 40 ans, de témoignages incohérents et de notes de renseignement bancales, à une époque où, il est vrai, les enquêtes se menaient sans ADN, vidéosurveillance ou données téléphoniques. Reste donc désormais au juge d'instruction de décider de la tenue d'un procès pour lequel le parquet antiterroriste demande donc également le renvoi des quatre hommes en fuite, ainsi qu'un suspect mis en examen très récemment en tant que responsable de la cache d'armes de ce groupe terroriste à Bounidal.
Merci Charlotte Piret. Le feu ne progresse plus à Marseille, plus de fumée dans le ciel. Les habitants du 16e arrondissement, confinés depuis hier après-midi, peuvent quitter leur domicile. L'explication, c'est le vent qui s'est nettement calmé ces dernières heures. Pour autant, 700 pompiers restent mobilisés et les autorités sont vigilantes sur de nouveaux départs de feu. Bonjour Paul Tillier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Paul, vous êtes en direct de l'Estac, quartier nord de Marseille, où les habitants ont vécu une nuit d'angoisse au milieu des flammes.
Ouais, les flammes ont dévalé les pentes de l'Estac comme une coulée de lave, raconte Angélique.
On a vu le feu qui était derrière la colline, après il a passé devant le pylône et les maisons juste en face, on les voyait partir en torches. C'est là où je suis partie, j'ai dit je peux pas rester ici. C'était inimaginable. Le ciel, il était rouge, noir, blanc. Je sais plus. Même dans les films, c'est même pas pareil en gros.
Son mari Romain et leur chien Ben sont restés toute la nuit aux côtés des pompiers pour protéger la maison. Le toutou est épuisé, Romain aussi.
On a vraiment eu chaud. Hein. Si je ne serais pas resté là, ben, j'avais plus de maison. Voilà. En face, on a réussi à sauver 4 maisons. Donc ça a fini. Au saut, on a vidé la piscine et au saut. On est des guerriers. Franchement, je vous le dis, on est des guerriers.
La gorge pique, les yeux grattent. Romain, il va franco avec le collier.
J'ai pas dormi, j'ai pas réussi à fermer l'œil. J'ai les yeux, ils sont complètement éclatés en fait avec la fumée. C'est tellement en fait infecté de poussière dedans que j'ai les yeux, ils font code phare comme on dit.
Ce Marseillais ne sait toujours pas quand il pourra dormir un peu. Derrière nous, une colonne de marins-pompiers de Marseille remonte dans les massifs de l'Estac pour noyer les fumerolles.
Martin Troidec pour les moyens techniques, Paul Tillier pour ce reportage à Marseille. Côté transport, la situation reste très difficile. Le trafic des TGV perturbé sur l'axe Marseille-Lyon-Paris. Des voies sont réservées au secours sur l'autoroute A7 et un trafic qui a repris très progressivement à l'aéroport. Bilan provisoire de cet incendie pour l'instant, 24 personnes hospitalisées dont 6 pompiers, 10 habitations détruites, 71 bâtiments touchés. Avec comme particularité pour les pompiers d'intervenir en ville et non pas en forêt. Ça implique des mesures particulières, détaille le contrôleur général Marc Vermeulen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Ça va être, je dirais, une guérilla urbaine, puisqu'on va venir quadriller le périmètre urbain qui va être concerné. Et en fait, on va faire de la défense maison par maison, structure par structure, avec quelquefois, en fonction de l'état du terrain, si les obligations légales de débroussaillement n'ont pas été respectées, ben là, on va avoir une propagation à l'habitat qui va se retrouver facilité, puisqu'en fait on va avoir le feu qui va pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement dans l'aire urbaine. On peut avoir également des bouteilles de gaz qui vont être présentes parce que il y a un barbecue, donc effectivement le risque est démultiplié à ce niveau-là. Et puis il faut pas oublier que pendant qu'on effectue cette défense de la zone urbaine, il faut continuer à lutter contre le feu de forêt et limiter au maximum ses effets destructeurs.
Marc Vermeulen au téléphone de Lucille Oconi. Alors à Marseille, c'est un feu de voiture sur l'autoroute qui a déclenché l'incendie. Dans l'Hérault, le préfet alerte sur les jets de mégots de cigarettes sur l'autoroute A9. À l'origine, dit-il, de nombreux départs de feu. Au total, il y en a eu 9 hier dans le département, celui de Castelnau-de-Guers, 400 hectares brûlés, est désormais fixé. Dans l'Aude, le feu qui s'est déclaré lundi près de Narbonne est toujours actif, mais les zones habitées ne sont plus menacées. Les pompiers étaient 1000 hier, ils ne sont plus que 300. Alors on le voit, en ce début d'été, le risque incendie concerne l'ensemble de la région méditerranéenne avec des moyens de lutte qui, eux, restent limités. Si on se concentre sur les simples Canadair, ces avions bombardiers d'eau qui peuvent se poser en mer, la France en compte 12. Or, en juillet 2022, au plus fort des incendies en Gironde, le président de la République avait annoncé l'achat de 16 nouveaux appareils d'ici 2027. Bonjour Julien Nenny.
Bonjour.
Depuis, ça n'a pas beaucoup avancé.
Oui, c'est un euphémisme. 3 ans après, seuls 2 nouveaux Canadair ont été commandés sur les 16 annoncés par le président. Et encore, le contrat d'acquisition a été signé en août 2024 et les avions ne seront pas livrés avant 2028, après la fin du quinquennat, donc, contrairement à la promesse présidentielle. Alors, pourquoi tant de retard ? Une députée a un élément de réponse. Elle s'appelle Sophie Pantel, elle est élue PS de Lozère. Et il y a tout juste une semaine avant la vague d'incendie en cours, elle a publié justement un rapport sur le renouvellement de la flotte aérienne de la sécurité civile. Et selon elle, ce retard français sur les Canadairs s'explique en partie par une décision du Premier ministre Gabriel Attal en février 2024.
Il y en avait deux de plus qui auraient dû être commandés en 2024, mais le gouvernement de Gabriel Attal a annulé un certain nombre de crédits à la sortie de l'hiver, dont les crédits qui concernaient les deux appareils. C'est évident que la promesse n'est pas tenue.
Et en effet, à l'époque, déjà, le gouvernement cherchait à faire des économies massives. Gabriel Attal avait annoncé par un décret 10 milliards d'euros de coupes budgétaires, dont près de 53 millions en moins pour la sécurité civile. Contacté, l'entourage de l'actuel patron du Parti Renaissance assume ces économies, réclamées alors, je cite, à l'ensemble des ministères, mais assure que le contrat d'acquisition des deux premiers Canadairs inclut aussi, je cite là encore, la possibilité d'acquérir jusqu'à 14 avions supplémentaires d'ici 2030. La possibilité, certes, mais à ce stade, ces 14 avions n'ont toujours pas été commandés.
Julien Nenni pour ces précisions. Là aussi, c'est un choix politique sur lequel pèse l'état de nos finances. Entre 2031 et 2036, les 7 plus grandes concessions d'autoroutes en France vont arriver à échéance. Ça veut dire que ces milliers de kilomètres de routes à péage seront à nouveau dans les mains de l'État. Il faut donc décider de leur avenir. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, annonce ce matin le choix du gouvernement de renouveler ces concessions, c'est-à-dire de les confier à nouveau au privé.
Ah oui, comme c'est le cas actuellement, l'idée c'est de maintenir donc des péages autoroutiers et d'établir de nouveaux contrats de concession, mais dans un cadre plus exigeant, prévient le ministre Philippe Tabarot.
Les futures concessions seront plus restreintes, couvriront des périmètres géographiques renouvelés, elles auront une durée plus courte, elles intégreront un système d'encadrement de la rentabilité, ainsi que des clauses de revoyure tous les 5 ans. Et la puissance publique sera également associée au capital des futures concessions.
Et à l'heure actuelle, le gouvernement ne souhaite pas voir le prix des autoroutes augmenter.
Et l'idée, c'est d'utiliser l'argent de ces concessions pour financer les infrastructures de transport.
Oui, toutes les recettes issues des futurs péages iront vers les infrastructures de transport pour les moderniser, sachant que l'âge moyen du réseau ferroviaire est de 29 ans, ou encore les adapter au changement climatique. Concrètement, ça représenterait 2,5 milliards d'euros chaque année dès 2032. Alors c'était une demande des élus, mais Frédéric Cuillerier de l'Association des maires de France reste méfiant car demeure un flou.
Comment cette manne financière pourra-t-elle être répartie entre les différents modes de transport et notamment sur les infrastructures routières ?
Qui coûtent environ 15 milliards d'euros chaque année aux communes. Rien n'est acté pour l'instant. Cette mesure fera partie d'une loi que le ministre souhaite déposer en décembre au Parlement. En tout cas, la remise à niveau et la modernisation des infrastructures ferroviaires, routières et fluviales nécessitent d'investir 3 milliards d'euros supplémentaires par an entre 2026 et 2031.
Voilà, ça c'est la proposition du gouvernement. Il faut maintenant en passer par une loi. Merci Luc Chemla pour ses explications. Le crash d'un petit avion de tourisme ce matin près de l'aéroport de Chambéry en Savoie. Crash dans un champ. Cet appareil s'apprêtait à atterrir. Les trois occupants sont morts. À l'étranger, la Russie a une nouvelle fois saturé le ciel ukrainien la nuit dernière avec des bombardements massifs, drones et missiles. Les bombardements les plus importants depuis le début de la guerre. Les services d'urgence ukrainiens font état de nombreuses victimes civiles et d'importants dégâts matériels. Bastien Bory est à Kiev pour Inter.
Frapper l'Ukraine en profondeur, tel a été le message adressé cette nuit à l'ouest du pays, tout près des frontières de l'Union européenne. Il est 23h hier soir, le Kremlin apprend que Washington veut expédier de nouvelles armes défensives à Kiev et déjà plusieurs avions MiG-31 décollent. En l'espace de 4 heures, 6 missiles balistiques, 7 missiles de croisière et 741 drones kamikazes sont lancés, deux fois plus que jeudi dernier, précédent record de l'attaque russe la plus vaste en 3 ans de guerre. Et cette fois, c'est la ville de Loutsk qui paie le prix d'une nuit de sirènes incessantes à 80 km seulement de la Pologne, où l'armée de l'air fait décoller plusieurs chasseurs. Au matin, le président Zelensky se félicite du pourcentage d'interception de la défense aérienne ukrainienne. L'ensemble des missiles russes et 711 drones auraient été neutralisés, mais d'autres ne sont pas du même avis. Près des lignes de front, 5 personnes sont mortes et 39 autres sont blessées. Pendant ce temps, Donald Trump confirme une aide militaire renouvelée aux forces ukrainiennes sans donner de chiffres, à 2 jours d'une visite du ministre russe des Affaires étrangères en Corée du Nord, premier fournisseur d'armes de Moscou. À Kiev, Bastien Bory, France Inter.
8 civils sont morts dans ces attaques russes dans l'est de l'Ukraine, nous dit à l'instant le procureur de Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et Bastien Bory en parlait à l'instant. Volodymyr Zelensky lui est arrivé à Rome où il doit s'entretenir aujourd'hui avec le président italien Sergio Mattarella ainsi qu'avec le pape Léon XIV. Et puis à l'instant, l'armée israélienne dit avoir lancé des opérations spéciales et ciblées dans le sud du Liban. Nouveau front donc pour l'armée israélienne au Liban. Notre rendez-vous avec le Tour de France, cinquième étape aujourd'hui. Les premiers coureurs viennent de s'élancer à Caen pour un contre-la-montre individuel de 33 km. Les favoris vont s'expliquer aujourd'hui. Bonjour Xavier Monferrand.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Xavier, vous êtes en direct avec nous. Il est possible aujourd'hui, Xavier, que Tadej Pogacar, le triple vainqueur de la Grande Boucle, soit battu, et par exemple par le Belge Remco Evenepoel.
Oui, c'est le grand favori, hein. C'est le meilleur de tous sur cet exercice. Tous les coureurs le disent, même les plus grands spécialistes, par exemple Bruno Armirail, le français champion de France du contre-la-montre, double champion de France même du contre-la-montre, le dit, c'est Remco. Même s'il a 58 secondes de retard ce matin sur Tadej Pogacar, eh bien, même Bruno Armirail, qui est un spécialiste, dit que Remco peut le faire. Il l'a déjà fait, pas autant de secondes à rattraper, mais il l'a fait il y a un mois sur le Dauphiné, le critérium du Dauphiné qui est la répétition générale du Tour il y a un mois. Il a pris le maillot jaune en remportant un chrono. Il peut le faire, ça paraît quand même compliqué, mais il est champion du monde en titre, champion olympique en titre, et puis il a cette position sur le vélo unique, c'est la meilleure, tout le monde le dit, personne n'est sur un vélo comme lui dans son profil et son nouveau casque qui va faire beaucoup parler, avec notamment cette visière crantée, découpée, vous savez, ces casques de contre-la-montre toujours impressionnants, ces espèces de têtes de poisson effilées vraiment pour prendre le vent. Il a un casque absolument dingue, Remco Evenepoel, donc tous les éléments sont faits pour peut-être qu'il réalise un énorme coup aujourd'hui sur la route du Tour.
Va-t-il remporter cette étape? Peut-il prendre le maillot jaune? On aura la réponse avec vous, Xavier, après 17h. Le maillot jaune, Mathieu Van Der Poel sera le dernier à s'élancer à 17h pile. L'Olympique Lyonnais, là c'est du football, joue son avenir en Ligue 1 aujourd'hui, rétrogradé administrativement à cause de sa dette. Ses nouveaux dirigeants sont entendus en appel par le gendarme financier du football français. La décision devrait être rendue dans la journée. Moins vieux que le Tour de France, mais tout de même, on fête cette année le centenaire du photomaton. Oui, ces studios photo automatisés qui vous tirent le portrait dans les centres commerciaux ou dans les halls de gare. Ils sont nés aux États-Unis. Il y en a plus de 10 000 aujourd'hui dans notre pays. Et Béatrice Duguay l'a constaté, ils résistent aux selfies et aux réseaux sociaux.
Comme le dit Martine, le photomaton sert historiquement
pour des photos d'identité, pour les papiers officiels.
Bienvenue dans votre cabine photo.
Aujourd'hui, les deux tiers des cabines n'ont plus ce tabouret à vis pour vous mettre les yeux au niveau de l'objectif. Les appareils s'adaptent. Haute définition, éclairage travaillé et une certification que c'est bien vous.
Regardez droit devant vous.
Explique Patrick Debec, le directeur général de Photomaton France.
Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour prendre la photo.
Typiquement sur les permis de conduire, vous avez ce qu'on appelle l'e-photo. La photo est prise, elle s'imprime, vous avez un numéro, mais en même temps, elle est envoyée directement à France Titres pour votre permis. Et vous, quand vous faites votre démarche, vous avez juste à donner le numéro en ligne.
3, 2, 1.
Andy Warhol s'est bien chargé, lui, de détourner ses très sérieux petits portraits dans les années 60. Les célébrités y passent, les Kennedy, Mick Jagger, aujourd'hui Angèle ou le prince Harry et Meghan Markle. Et paradoxalement, à l'époque du selfie et de l'éphémère, les photos de potes à plusieurs dans la cabine perdues.
Voici votre photo, quel style incroyable.
Et cette génération qui n'a jamais connu l'argentique redécouvre la photo imprimée comme une façon finalement de figer une émotion ou un moment.
Évidemment, l'IA s'invite aussi dans les photomatons 2025. Il vous transforme en super-héros, vous habille chic pour vos CV ou vous pose carrément dans le groupe des footballeurs du PSG.
Préparons vos photos.
Reportage Béatrice Duguay, 13h19, le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Le vent a perdu un peu de vigueur donc en Méditerranée.
Oui, ça souffle encore mais moins fort qu'hier. On attend des rafales jusqu'à 60 km/h pour le Mistral, 40 pour la Tramontane. Côté ciel, c'est du soleil quasiment partout. Peut-être quelques nuages bâtonnasses vers la pointe bretonne. Sur le nord-est, là, ça reste parfois bien nuageux. Et puis au nord de la Seine, quelques nuages vont se développer dans l'après-midi. Ça se réchauffe doucement. On repasse un peu au-dessus des moyennes de saison à l'ouest. En revanche, ça reste un petit peu timide dans l'est. Comptez souvent 22 à 27 degrés, jusqu'à 26 à 30 près de l'océan et sur le sud-ouest, et 27 à 32 en Méditerranée. Demain, du soleil, quelques degrés de plus qu'aujourd'hui, et moins de vent en Méditerranée. Le Mistral soufflera jusqu'à 50 km/h.
Élodie Calac, Météo France.